La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Vous souhaitez avoir un autre numéro de téléphone tout en gardant le vôtre? C'est possible avec OnOff, une appli qui permet, Elisabeth, de créer un numéro professionnel afin de protéger son numéro privé.
Oui, par exemple, vous avez envie de vendre une voiture sur un site internet et où vous souhaitez créer un numéro professionnel tout en protégeant votre numéro privé, en gardant votre téléphone. C'est possible avec OnOff, c'est une start-up qui existe depuis 6 ans. Elle permet de faire tout cela pour 3,50 euros par mois. Vous avez un numéro alternatif à votre numéro de téléphone initial. Donc, ça répond à plusieurs problématiques aussi, notamment cette fameuse problématique du droit à la déconnexion grâce à un numéro professionnel que l'on peut mettre sur on ou off, d'où le nom de la start-up, selon les week-ends, les vacances, et aussi de protection de vie privée grâce au numéro temporaire que l'on utilise sur Internet. Bonjour Taïk Chris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ben, je suis ravi, vraiment.
Ben, nous aussi.
Nous aussi.
Vous êtes le fondateur de OnOff. Avant
exactement.
De parler de votre parcours qui est très singulier, vous allez d'abord nous raconter à quoi ça sert très exactement OnOff. Comment ça marche?
Alors, comment ça marche? Bon, c'est un peu compliqué, c'est un opérateur télécom, mais globalement, pour les gens, c'est extrêmement simple. C'est juste donc une application téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store. Et donc, en un clic, on peut comme ça s'attribuer un ou deux ou trois numéros. On peut prendre un numéro pour une heure, ou un numéro pour un mois, ou un numéro pour toujours. Et voilà, ça sert parce que finalement, quand on regarde bien, le numéro de téléphone est le dernier élément vraiment privé que l'on ne veut pas mettre sur sa carte de visite. Ça permet de créer un compte WhatsApp, ça permet également d'avoir une identité bancaire, souvent une connexion avec la banque. Donc le numéro est vraiment un des éléments les plus importants, en tout cas le numéro de mobile. Et donc quand on vend sa voiture sur le bon coin, comme vous disiez, bah c'est difficile parce qu'on se retrouve complètement submergé de messages, oui. Et on ne peut pas supprimer le numéro si facilement. Donc là, c'est vrai que c'est pratique, on peut s'attribuer un deuxième numéro en un clic.
Donc je télécharge votre appli OnOff.
Vous choisissez votre numéro.
Avec mon numéro téléphone, je le choisis, vous allez vous générer un numéro, vous en proposez?
Plein, voilà, il y a une liste complète, vous pouvez même choisir avec votre date de naissance si vous voulez, et celui que vous avez envie, bah, vous cliquez dessus, faut payer, donc c'est 3,50€ par mois, ça vous donne appel SMS illimité avec.
Si je le veux pour une heure, c'est le même prix.
Ça coûtera le même prix, et vous pouvez comme ça vous déconnecter. En plus, maintenant, on a même une solution entreprise, c'est-à-dire que pour les entreprises, ils peuvent créer des flottes de numéros pour les salariés et attribuer en un clic 1000 numéros d'un coup. Et quand le salarié part, je n'ai plus besoin d'aller courir derrière la carte SIM, récupérer la carte SIM ou quoi que ce soit. J'ai juste à changer le mail et le numéro disparaît d'un salarié et apparaît sur un autre collaborateur.
Ça fait 6 ans que ça existe.
Exactement.
Il y a eu beaucoup de numéros attribués en 6 ans.
Évidemment. Après, ça a été une sacrée aventure parce que moi, j'étais sportif à la base. Je n'étais pas entrepreneur.
Autodidacte. Hein.
Alors ça, complètement. Hein. Oui,
parce vous avez réussi à lever... tout seul, 10 millions d'euros.
Alors d'abord avec
tout
du privé,
seul, hein.
Tout seul avec
des business angels.
Des business angels, j'en ai rassemblé 130. Ça m'a permis de démarrer. Après, les fonds traditionnels ont rajouté 10 millions d'euros de plus. Donc on a levé 20 millions au total. Aujourd'hui, en quelques chiffres, donc on a 1 milliard de SMS échangés. J'ai 60 collaborateurs au bureau. On fait plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et j'espère que c'est que le début parce qu'on a inventé des brevets. On essaie de réinventer les télécoms. C'est-à-dire, les télécoms étaient un peu vieillissants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye de les rendre un peu plus fun via des applications
surtout
mobiles.
Surtout que tout est figure dans le cloud, hein, comme on
exactement.
Dit, hein, sauf nos numéros de téléphone. Et vous êtes la réponse à cela.
Exactement, parce que je vous donne un exemple. Disons que vous perdez votre téléphone, vous n'avez plus de batterie en soirée, bah vous n'avez plus votre numéro. Bah avec OnOff, vous prenez le téléphone d'un collaborateur, vous téléchargez l'appli, vous mettez votre email et votre mot de passe, et bah vous récupérez dans la seconde vos SMS, votre numéro, vos contacts, etc.
Christophe Chaud.
Moi, je suis l'ingénieur.
Les
télécoms, ça me parle.
Hein.
C'est sûr. Et moi, j'ai posé une question d'ingénieur. Comment ça marche tout ça?
Alors, c'était ça la complexité. Alors,
ça, je vous
dire,
bien,
quand,
à mon avis.
Quand j'ai imaginé ça il y a 6 ans en arrière, je partais de l'expérience utilisateur. J'imaginais pas la complexité pour créer ce genre de choses. En fait, un numéro ne peut attribuer que par un opérateur télécom régulé. Donc, il a fallu prendre des licences télécom dans plein de pays, respecter la régulation avec la portabilité, les réquisitions judiciaires, etc. Donc, les numéros, comme n'importe quel opérateur, je les achète auprès du régulateur télécom qui est l'ARCEP en France. Et après, il fallait faire ce qu'on appelle des interconnexions avec tous les opérateurs régulés en France et même dans le monde pour acheminer les SMS ou les appels partout et les MMS partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que ça a coûté des millions et des millions d'euros et des années de R&D.
Elisabeth, avec en plus un parcours totalement hors norme.
Un parcours totalement hors norme. Donc, on le disait, champion de sport extrême.
Voilà, plusieurs fois champion du monde.
Autodidacte, hein, vous n'avez jamais été à l'école. Vous avez
jamais.
Été
même pas une journée en maternelle.
Vous avez relevé les défis.
Ce sont vos parents. Vous ne reculez devant aucune difficulté. Je crois que vous avez même réussi à convaincre une personne à mettre 300 000 euros rien qu'en discutant avec lui le temps d'un trajet en avion.
Exactement, en économie.
Vous
c'était même pas ma place.
Faites, hein.
Et je lui ai pitché ma boîte. Non, c'est vrai que je suis tellement passionné, je partage ma passion aux gens et j'embarque finalement beaucoup de gens avec moi. Mais c'est vrai que je suis un challenger, j'essaye de rêver des choses impossibles et après il y a la longue route pour y arriver. C'est la réalité, c'est le travail. Hein.
Donc la suite ?
La suite, c'est de continuer à essayer de réinventer les télécoms. Là, on a attaqué...
Vous voulez être le concurrent direct des SFR Free & Co ?
Alors pas concurrent parce qu'eux sont propriétaires des antennes.
Complémentaire ?
C'est complémentaire, voilà. Mmh. On va dire être le premier opérateur vraiment dans le cloud et réinventer l'expérience utilisateur dans le monde des télécoms. Je me suis attaqué au numéro et vous allez voir cette année, je vais sortir de nombreux produits qui vont réinventer d'autres systèmes dans les télécoms.
On a hâte.
Vous viendrez nous en parler, évidemment, en avant-première ici dans la France Bouge.
Sans problème.
On vous attend. Merci beaucoup.
Merci.
Il est midi 58.
Europe 1.
Et on va s'intéresser ensemble à la ruralité. C'est notre dossier du jour aujourd'hui sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans La France Bouge. Vous savez que ce soir, ce sera notre dernière halte du 18-20 de Nathalie Lévy pour ses émissions spéciales municipales. Nous la retrouverons en Meurthe-et-Moselle pour parler ruralité. Et c'est aussi le dossier que nous ouvrons ensemble aujourd'hui, car les communes rurales, en choisissant leur maire, ont aussi beaucoup à dire avec leur bulletin de vote. Bonjour Emmanuel Brochot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Bouge ton coq. Alors Bouge ton coq, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui propose un modèle de financement inédit pour les projets d'intérêt général destinés à nos campagnes. Vous allez nous raconter comment, avec votre frère, vous vous êtes lancé dans cette aventure. Mais pour bien comprendre, j'ai envie de dire, il faut remonter aux racines parce que vous êtes tous les deux Auvergnats.
Exactement. On est originaire d'un petit village qui s'appelle Ravel, dans le Puy-de-Dôme, de 350 habitants.
Et quand on est originaire d'un village de 350 habitants, on s'en souvient toute sa vie.
Ah bah forcément,
quelque
ça marque.
Quelle que soit la destinée qu'on a après.
Oui, oui, tout à fait. On s'en souvient à vie, ça marque en bien. Hein. Et puis, forcément, il y a des petits loupés. C'est-à-dire, un village de 350 habitants, c'est très isolé. Et c'est probablement ce qui nous a fait cheminer pour aller vers Bouge ton coq.
Oui, et c'est aussi ce qui vous permet de savoir ce qu'est la ruralité. Mais vous, vous êtes monté à Paris, vous avez ouvert une agence de pub avec votre frère.
Ouais,
et
ouais.
Et puis, vous avez été rattrapé finalement par votre ruralité, on peut le dire comme ça ?
Oui, on peut le dire, par l'âge aussi. À partir de 50 ans, on avait envie de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens.
On a besoin de sens.
Voilà, exactement. Et donc, on a gardé notre agence pendant une bonne dizaine d'années, et puis on l'a revendue à un grand groupe. On s'est dit, à 50 ans bien tassé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Et alors
forcément, alors retour aux sources, l'origine, le village. On est entrepreneur, on avait beaucoup habité à Paris, donc on a un peu de réseau. On s'est dit, quelle pierre on peut apporter à l'édifice ? Donc on s'est mis autour de la table et puis on s'est gratté la tête un petit peu pour regarder de façon, avec un autre angle, de façon un peu plus professionnelle, entrepreneuriale, les manques et quel type de rustines, mais de vraies rustines qui tiennent longtemps, on pouvait nous apporter avec notre savoir-faire.
Oui, ça fait quand même 2 ans que vous êtes sur ce projet, donc vous vous êtes gratté la tête effectivement un paquet de temps pour arriver à quelque chose d'efficace. Je crois que vous aviez d'ailleurs fait une première plateforme en 2016, Cocoricos, c'est ça ?
Oui, exactement, vous savez tout.
Et vous aviez financé 25 projets ?
Oui, 25 projets. On avait en fait collecté un peu plus de 150 000 euros de dons. En fait, dans la logique de l'entrepreneuriat, on a voulu faire les choses en grand et mesurer un petit peu la pertinence de l'idée qu'on avait de Bouge ton coq au réel, si vous voulez. Donc on a fait ça pendant 3-4 mois et on a pu mesurer la pétence du sujet et puis le bien fondé en fait de notre démarche. Et puis, faire le bilan. Il y avait des choses qui marchaient très bien, puis des choses qui marchaient moins bien. Et puis, mettre tout ça dans une boîte, le secouer. Et puis, c'est Bouge ton coq qui est sorti avec quelque chose d'assez différent et un peu innovant.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent et d'innovant ? Vous êtes une sorte de tiers de confiance, de tronc commun pour les communes, pour les porteurs de projets, pour... pour tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses dans la ruralité ?
Oui, en fait, nous, on s'est aperçu que beaucoup de situations sont bloquées dans la ruralité. Il y a énormément d'énergie. On n'est pas du tout misérabiliste. Hein. On n'est pas là pour sauver la ruralité. Pas besoin de nous pour être sauvés. Mais en revanche, on s'est aperçu, en parcourant la France, qu'il y avait beaucoup d'initiatives extraordinaires qui étaient bloquées pour des questions de flux financiers. Et quand on parle de 5 000 euros, par exemple, à Paris, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de 5 000 euros ? On ne peut rien faire. Vous êtes dans un village, 5 000 euros, vous débloquez une situation.
Donc vous avez un exemple concret ?
Des exemples, on en a financé, dont je vous disais 25 par exemple. Dans un petit village de la Sarthe, il y avait un poulailler. Voilà, les élus et les associations locales voulaient faire un poulailler de village pour récupérer les déchets du village, faire du compost et faire naître un poulailler de village qui pouvait bénéficier à tout le monde. Bon, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, mais ça crée du lien social. Un poulailler dans un village, tout d'un coup, tout le monde se concentre autour de ce poulailler-là. Tout le monde amène ses déchets, donc c'est assez dans l'air du temps. On est dans une économie circulaire. Et puis, tout le monde récupère les œufs. Voilà, 5 000 euros, ça a permis de faire ça.
Elisabeth, la France rurale aujourd'hui, si on la dessine, ça ressemble à quoi ?
La France rurale, c'est d'abord des communes, une commune de moins de 3500 habitants. Il faut savoir qu'un Français sur trois réside dans une commune de moins de 3500 habitants. On estime à environ 21,4 millions d'habitants qui vivent dans ces communes. Parmi les communes rurales, plus de 80% d'entre elles sont en croissance démographique. Et les personnes qui s'installent en milieu rural, eh bien, représentent 85% des actifs tout de même.
Alors avec Bouge ton coq, vous avez commencé à faire bouger les choses. Nous, on aime bien ça. La grande originalité finalement, c'est que vous collectez au niveau national, voilà. Mais vous redistribuez au niveau local, voire micro-local.
Exactement, c'est tout à fait ça l'idée. En fait, nous, on est persuadés que la ruralité devrait devenir une cause nationale. Et en fait, il faut lui donner un visage parce qu'il se passe énormément de choses, comme je le disais tout à l'heure, mais énormément d'initiatives sont atomisées. Et finalement, si je prends le cas d'une entreprise, parce que notre objectif, c'est de réunir autour d'un guichet unique les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. On veut installer et faciliter la chaîne de financement pour les projets micro-locaux. C'est ça notre raison d'être et notre savoir-faire, de telle sorte qu'une initiative locale puisse aller sur la plateforme, accrocher son projet et démocratiquement, parce que ce sont les membres de la communauté qui votent pour les projets qu'ils veulent voir financer, que ces porteurs de projets puissent avoir accès à un financement sans finalement se soucier beaucoup de ce... Parce que c'est très difficile d'aller chercher des subventions publiques, etc. Donc si je prends l'exemple d'une entreprise, si on veut réunir les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics, une entreprise, si elle veut donner pour la ruralité, elle donne à qui ? Si on veut donner aux personnes âgées, on a des associations qui sont bien connues. Si on veut donner pour le cancer, pour je ne sais quelle maladie, il y a des associations qui sont connues. Si vous voulez donner pour les campagnes, qui est quand même... il y a une étude de Famille Rurale qui dit que plus de 80% des Français considèrent que le village est l'endroit où il fait bon vivre, où ils auraient envie de vivre. Donc l'imaginaire s'est inversé. On nous a fait croire pendant longtemps que les villes étaient le bonheur absolu. Aujourd'hui, on voit bien qu'on en revient. Mais c'est bloqué, parce qu'il faut de l'activité pour aller vivre dans les villages. Il faut de l'activité, donc il faut débloquer des initiatives, et c'est notre raison d'être.
Notre coach, Christophe Chaud.
Moi, je trouve votre projet est fantastique. Je trouve que aujourd'hui, on est dans un monde où finalement, il n'y a jamais eu autant de moyens de communication, il n'y a jamais eu autant de moyens de mobilité et il n'y a jamais eu autant de fractures sociales. Je devrais utiliser ce terme. Hein. Et je trouve que quelque part, l'idée de dire qu'on peut utiliser les technologies, le numérique, les plateformes de mise en relation pour aller dans une direction de créer du lien, de recréer de la communauté, de redonner, je dirais, l'entrepreneuriat entre les mains de gens qui sont chez eux et qui n'ont pas besoin de venir à Paris, à Station F par exemple, pour être entrepreneur, je trouve que c'est un projet qui est porteur d'énormément d'espoir et de positivité.
Merci pour ça. Et nous, on a voulu faciliter, en fait, simplifier au maximum. Donc, pour les citoyens, parce qu'on a une conviction aussi, c'est que tout ça est bâti autour du don. Et le don comme valeur de société nous paraît quelque chose de vraiment fondamental. Mais le don, pour nous, il faut qu'il soit indolore, entre guillemets, et engagé dans le temps. Et pour un citoyen, c'est à partir de 2 euros par mois. 2 euros par mois, on n'est pas loin d'une opération pièce jaune. Je veux dire, tout le monde peut se le permettre. Si on est 10, ça ne sert à rien. Si on est 200 000, on fait bouger, on fait changer le monde. Et c'est pareil pour les entreprises où c'est un abonnement. On est un fonds de dotation, donc notre statut, c'est comme une fondation. Donc on autorise la défiscalisation pour les entreprises. Et ça permet, quand les entreprises donnent, sous la même manière, le don est libre. Mais là, on massifie les moyens et à ce moment-là, on change le monde.
Et on va continuer à le faire changer ensemble aujourd'hui, le monde. A tout de suite sur Europe 1. Il est 13h21.
Europe 1.
Partager, tiens, l'espace de travail, c'est pas simple quand on est en milieu rural. Alors, Rura Connect met en relation les communes et les salariés qui cherchent un lieu. A tout de suite. Comme chaque lundi à l'approche des élections municipales, on parle dans La France Bouge des sujets de société, comme par exemple la désertification dans les zones rurales. Nos invités ont des solutions pour faire bouger les choses. On attend vos réactions, vos questions peut-être au 3921. Ça c'est pour le téléphone, hashtag Europe 1 si vous voulez nous écrire via Twitter, Raphaël.
Et c'est en voyant, je crois, le développement d'un certain Blablacar qu'est né le projet Rura Connect. Bonjour Vincent Panier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Basdis. Oui. Vous êtes à la tête, on va dire, d'un écosystème qui met en relation l'offre et la demande, en l'occurrence les salles de réunion, les bureaux vides et ceux qui cherchent un espace. Or, vous habitez un petit village pas très loin de Bordeaux, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, c'est entre Bordeaux et Périgueux, j'habite un village qui fait un peu moins de 1000 habitants.
Et alors, vous êtes aperçu que des salles, des bureaux, finalement, il y en avait beaucoup à disposition, y compris dans nos territoires ruraux.
C'est considérable. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 32 000 communes rurales en France. Et dans toutes ces communes rurales, il y a des bureaux et des salles de réunion qui ne sont pas toujours utilisées, même dans certains cas qui ne sont jamais utilisées. Il y a aussi des écoles qui ferment. Et plutôt que de laisser ces bâtiments vides, on a eu l'idée et on a réalisé un gros travail avec l'Association des maires ruraux de France pour trouver une solution qui permette à tous les professionnels de France, mais aussi les habitants de ces villages, de pouvoir trouver facilement un lieu où travailler. Aujourd'hui, ça résonne beaucoup avec l'actualité, avec le développement du télétravail, avec le travail à distance. C'est-à-dire, on se pose beaucoup de questions. Bon, j'ai envie d'économiser, de faire moins d'allers-retours qui me stressent, qui coûtent cher, etc. Est-ce que je peux travailler à distance? Oui, mais où?
J'ai pas forcément envie de travailler de chez moi.
Il y a de moins en moins de gens qui ont envie de travailler de chez eux, parce que le fait de travailler de chez soi, même si au début c'est assez alléchant, au bout de quelques temps on se dit je m'isole, alors que j'aimerais aussi rencontrer du monde et m'éviter ces trajets.
Donc vous avez créé des tiers-lieux finalement.
On a créé une plateforme. Tout à l'heure vous faisiez le parallèle avec Blablacar. Moi j'ai toujours trouvé que Frédéric Mazzella avait une vision d'une intelligence extraordinaire en se disant toutes ces places disponibles dans les voitures, c'est un réseau de transport latent. Je veux dire, le parallèle est fait, c'est-à-dire que tous ces bureaux et ces salles de réunion disponibles dans les communes rurales, c'est un réseau d'espaces de travail disponibles et directement accessibles pour tous les professionnels qui se déplacent, qui ont envie de travailler autrement.
Comment est-ce que vous avez fait pour construire Rural Connect, justement? Comment est-ce que vous avez référencé les lieux vides et trouvé les salariés qui avaient envie de remplir ces salles? Comment ça marche?
C'est un travail de fond que l'on réalise encore à l'heure actuelle avec la MRF.
Oui, parce que ça marche depuis le dernier trimestre 2019.
Oui, c'est ça. C'est assez récent. Et donc, on a communiqué en interne de la MRF sur l'existence et le développement de Rura Connect. Les élus se connectent directement en ligne. Pour eux, proposer un bureau, une salle de réunion, c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Bon, ils récupèrent le montant de la réservation et ça se fait en moins de 3 minutes. L'espace, nous, on modère, on vérifie que les données soient justes, que les photos soient bien prises, etc. Et l'espace est directement en ligne et peut être réservé. Ce matin, on a eu un très beau bureau à la pointe du Finistère, près de la presqu'île du Crozon, qui est magnifique, qui peut être réservé dès cet après-midi.
Ça donne envie à Christophe Chou.
Ouais, c'est pas loin de chez moi, enfin de chez moi quand je suis pas à Paris. On va dire.
Bienvenue.
J'ai une question quand même, c'est-à-dire il y a un cahier des charges pour proposer une salle. C'est vraiment une taille minimum, un confort, pas forcément, mais des équipements minimaux requis. Par exemple, si je veux travailler aujourd'hui, c'est mieux d'avoir une connexion de bon niveau, par exemple, en termes de débit d'Internet.
Alors, il y a trois types d'espaces. Donc, le bureau fermé, le bureau ouvert ou coworking et la salle de réunion. Voilà, donc après, bah, la description est faite, il y a des photos, donc vous pouvez visualiser directement en ligne ce que vous allez réserver. En termes de confort, il n'y a pas un niveau exigé. Ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une connexion Wi-Fi.
Elisabeth, le comité interministériel sur la ruralité envisage, je crois, l'implantation de cafés. Ça a même commencé pour dynamiser les villes.
Oui, il s'agit d'un plan d'action du gouvernement pour dynamiser et socialiser les zones rurales. Et l'ambition, c'est de recréer des petites TPE dans ces territoires. Le projet s'appelle 1000 cafés, relancer un café qui aurait été fermé dans un village. D'ailleurs, 1000 cafés met entre 150 et 200 000 euros sur la table à la disposition des maires. Ils ont lancé un appel récemment. Vous pouvez aller voir sur le site 1000cafés.org. Ça fait partie d'un projet de territoire décidé par le maire. Et donc, l'objectif, c'est de redévelopper ces cafés. À chaque fois, il s'agira d'un binôme. Ça peut être, c'est-à-dire un gérant et un salarié. Ça peut être des retraités, des personnes au chômage, des personnes en reconversion professionnelle. Un gérant, un salarié payé au SMIC. Et c'est le groupe SOS 1000 Cafés qui va endosser la partie financière.
Merci Elisabeth. On reste ensemble et on va continuer à parler ruralité sur Europe 1.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. Et cet après-midi, dans La France bouge, on met en valeur la ruralité grâce à nos invités et leurs solutions qui luttent contre la désertification. Pour agir, témoigner, appelez-nous au 3921 ou alors écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1 Raphaël.
Oui, vous avez raison Céline. Désertification ou isolement, ce sont des mots qui reviennent sans cesse quand on aborde la question de la ruralité. Nous aimons nos campagnes, nous sommes nombreux à caresser le rêve un jour de retourner y vivre. Mais comment sauter le pas? Bonjour Thibault Renaudin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de... Alors, on dit Insight ?
On dit comme on aime. On dit Insight ou Insight, les deux.
Insight à la française, hein, quand même. Vous êtes parti, vous, d'un constat assez simple. Nos campagnes se meurent d'abord parce qu'elles sont dépeuplées. Or, c'est assez facile, finalement, si on veut leur redonner vie, il faut ramener les jeunes. C'est ce que vous faites.
Oui, surtout le constat qui était le nôtre, c'était de se dire, un peu comme on se le dit depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont des initiatives extraordinaires. Mais ils ont tous trois critères assez commun. Un, ils n'ont pas de moyens financiers. Deux, ou très peu. Deux, ils n'ont pas de moyens humains ou très peu. Et trois, ils font leurs actions souvent dans le plus grand anonymat avec toutes les difficultés que l'on connaît. Et donc on s'est dit, nous, il y a un autre constat qui est très fort dans notre société, c'est qu'on a des jeunes extraordinaires qui ont envie de faire des choses fantastiques. Et donc on va connecter ces deux-là. Donc on a inventé un concept comme ça qui est un peu grandiloquent, mais qui est le concept d'un Erasmus rural. On a dit à des jeunes, vous allez vivre une aventure extraordinaire dans un des endroits les plus beaux du monde, qui est un village qui fait un peu moins de 1000 ou un peu plus de 1000, un peu moins de 2000. Et vous allez venir aider en colocation des gens qui font des choses fantastiques. Vous allez vous mettre au service de ces gens-là pendant 6 mois. Et vous allez vivre une expérience extraordinaire avec eux.
Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller vivre en ruralité. Vous remettez ces jeunes, vous les prenez où, ces jeunes? Ils ont entre 18 et 25 ans,
ouais,
c'est ça?
Entre 18 et 25 ans,
et
c'est ça.
Ils sont en service civique. Ils font des missions de 6 à 12 mois.
Ils sont en service civique, ils font une mission de 6 mois. Ils sont 2 ou 3, avec une mission qui, là aujourd'hui, alors notre projet est assez récent, parce que nous avons 1 an et demi, on a commencé dans 4 départements il y a 6 mois.
Chez vous, en Occitanie?
Et chez moi, en Occitanie, particulièrement dans le plus beau département de France, le Gers.
Évidemment.
Et on a des missions qui sont autour...
Il va y avoir débat.
Il y a des missions qui sont autour de la question environnementale et la question du patrimoine, parce que les territoires ruraux ont aussi cette force-là de voir ces deux thématiques. Et puis en plus des missions d'appui, puisqu'on amène là des gens qui vont venir aider, qui vont être des bras, des yeux, des idées, des expériences au service de ceux qui font, eh bien ils vont travailler en plus au service du lien social. On va travailler sur la question de la mémoire, sur la question de lutter contre l'électronisme. On sait que de plus en plus de choses passent par la question numérique. Et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément les outils. Or, tous les jeunes, bien sûr, de notre société aujourd'hui, et ceux que l'on investit, sont très à l'aise avec ça. Et puis, on va travailler sur les questions de mobilité également et de lien social.
Alors, puisque vous parlez de fracture numérique, justement, on peut vraiment parler de fracture numérique quand on oppose la ville et la campagne, Elisabeth?
Ah, mais complètement. Les zones rurales sont celles qui subissent davantage les effets de cette fracture numérique. 6,8 millions de personnes n'ont pas accès à Internet aujourd'hui. On dit qu'ils sont en zone blanche, tandis que dans les villes de plus de 10 000 habitants, habitants, 95% des habitants ont accès à Internet. Celle des villages de moins de 1000 habitants, ça baisse directement à 69%. Donc un tiers de ces habitants ne peuvent pas accéder à Internet de qualité, un Internet de qualité minimale. Il y a un retard du déploiement de la fibre et l'écart est de plus en plus important entre les villes et les campagnes. Un bon débit pour tous est prévu pour fin 2020.
Alors, une fois qu'on a identifié finalement les problèmes, qu'est-ce qu'on fait ? Vous leur faites porter des missions environnementales, culturelles ?
C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont avec les équipes d'Insight ou d'Insight. On voit avec les maires ruraux, puisque c'est grâce aussi à eux que l'on s'est développé.
C'est eux qui vous disent on a besoin de ça ou
oui,
ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'on voit sur le terrain, on fait un travail de diagnostic.
Une sorte d'audit, oui.
Et voilà, et on voit où sont les besoins et on définit les missions en partenariat avec les acteurs du territoire. C'est eux qui connaissent leur territoire et qui connaissent les actions à mener. Et on vient, pour une fois, non pas en France, avoir un dispositif qui descend du haut vers le bas, mais non, on vient se mettre au service de ceux qui font, avec beaucoup de modestie, un peu d'humour et surtout énormément de détermination.
Ça va plaire à notre coach, je suis sûr, Christophe Chaud.
Clairement. Non, mais je trouve que cette initiative et d'autres, elle est extraordinaire parce qu'elle redonne un peu de choix. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde dans lequel l'injonction, c'est adaptez-vous ou disparaissez. Et s'adapter, ça veut dire aller dans une direction un peu unique. Et je trouve que remettre une bidirectionnalité un peu dans la direction et dire grâce à la technologie, mais aussi grâce à des projets comme ça, on retrouve la capacité à réinvestir ces territoires pour avoir une espèce d'environnement globalement plus uni. Et voilà, bravo.
Et puis c'est un projet aussi de développement économique, c'est-à-dire qu'on investit, nous, de la ressource humaine au service de projets qui, des fois, n'ont pas de moyens financiers, en se disant, au bout de 6 mois, puis 12 mois, puis 18 mois, puis 2 ans, on va développer une activité qui va permettre d'embaucher. Et c'est ce que nous commençons à voir sur le terrain.
Vous avez, ça y est, commencé à embaucher justement ?
Alors, il y a dans un petit village de la Haute-Garonne, il y a une de nos services civiques qui va certainement être embauchée. Oui.
On reste ensemble et on continue à parler ruralité et attractivité aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend vos témoignages sur le hashtag Europe 1 et au 3921, bien sûr. La France bouge avec vous et grâce à vous.
Dans la France bouge cet après-midi, à l'approche des municipales, on parle de ruralité et on en parle, Raphaël, avec vos invités.
Nous sommes avec Emmanuel Brochot, cofondateur du mouvement Bouge ton coq, guichet unique de financement sur des projets en zone rurale qui mobilise les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics. Thibaut Renaudin, président de Insight ou Insight, comme vous voulez, mise en place d'une sorte d'Erasmus rural. Et Vincent Panier, PDG de Base 10, créateur d'une plateforme de proposition et de réservation de bureaux qui s'appelle RuraConnect avec l'Association des maires ruraux de France. Notre coach, c'est Christophe Chaud pour Microsoft et évidemment à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela. Christophe, vous vouliez intervenir ?
Oui, j'avais une petite question en fait pour Base 10, parce que vous avez beaucoup parlé de si je suis maire, si je suis élu, je peux m'enrôler, etc. Mais si je suis client, ça marche comment et ça coûte combien ? Client, j'ai besoin
d'une salle. Ça marche très bien. Ou d'une location de salle.
Alors, tout le monde peut proposer un bureau. Par exemple, une entreprise qui va être installée dans une commune rurale va pouvoir proposer sa salle de réunion sur RuraConnect. Après, combien ça coûte ? C'est très simple. On a pris la décision de faire une tarification fixe, pour que ce soit très clair, quel que soit l'endroit en France. Donc, l'unité de temps est la demi-journée. Un bureau fermé, c'est 15 euros par demi-journée. Un bureau ouvert ou espace de coworking, c'est 9 euros par demi-journée. Et une salle de réunion, c'est 3 euros par place disponible par demi-journée.
Et alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est le système de paiement. Vous marchez un peu comme avec les tickets resto.
Oui, alors ça, c'est une innovation que l'on a apportée. On a créé un système de paiement qui s'appelle le ticket collaboratif. Donc, ça permet aux bénéficiaires de ce ticket collaboratif de réserver un espace de travail sans en avoir la charge financière. C'est quelque chose pour expliquer, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les entreprises qui veulent mettre en place le télétravail pour éviter à leurs collaborateurs d'avancer les fonds dans le cadre de notes de frais. Elle finance ces tickets collaboratifs et elle les. Alors c'est quelque chose qui est complètement dématérialisé. On n'a pas un carnet papier, donc tout se fait en ligne et le collaborateur peut réserver comme il le souhaite.
On a une première réaction sur Twitter.
Oui, Marc, hashtag Europe 1, il dit on parlait souvent de la France d'en bas. En vous écoutant, je préfère parler de la France de là-bas. À votre avis, est-ce que la désertification de ces territoires est-elle encore trop présente ?
Alors, je pense que la réponse est oui, mais il y a des choses qui sont en train de changer.
Oui, moi, je crois qu'on est à l'avant-veille d'un changement un peu, d'un basculement sociétal. Je pense que pour des questions environnementales, sociales et autres, il va y avoir un afflux de population vers les territoires ruraux. On le constate déjà, ça a été dit dans les chiffres tout à l'heure. Et je crois que de plus en plus, on va aller vers ça parce qu'on a envie, au-delà des questions de... On a envie de vivre un peu différemment. Et je crois que c'est la connectivité va nous permettre de passer ce cap-là.
Emmanuel Brochot.
À côté de ça, je crois qu'effectivement, le mouvement est en marche, mais ça va poser d'autres problèmes. C'est-à-dire, quand on regarde dans les villages, il y a une stratification en fait, des populations. Quand on voit des nouvelles populations arriver, notamment, on parle souvent des néo-ruraux. Et en fait, la question du lien social dans les villages est au cœur du sujet. Et en fait, pour créer du lien social entre des couches de population qui finalement n'ont pas grand-chose à faire ensemble, un rural de souche ou un néo-rural, ils n'ont pas forcément beaucoup d'occasions de faire ensemble. Et justement, le milieu associatif hyperlocal permet à chacune de ces strates-là d'entreprendre ensemble et de créer du lien social. C'est pour ça qu'il faut débloquer ces situations d'associations hyperlocales.
Vincent Panier.
Oui, le sujet de la désertification s'est développé au fil des ans, puisqu'on a eu une disparition du service, une disparition du commerce dans la ruralité. Ce qui a fait, c'est ce qui a créé, enfin, en partie, ces mouvements. Aujourd'hui, l'une des utilisations de RuraConnect, c'est que des professionnels utilisent les bureaux et des salles de réunion pour organiser des permanences. C'est-à-dire qu'on a des professions libérales, on a des services publics, parapublics, etc., ou des sociétés commerciales qui se disent ben, « on va aller à la rencontre de ces 21 400 000 personnes qui habitent en ruralité ». Et ce qui se passe, c'est que ben, par demi-journée, on amène à nouveau, on recrée une activité, on amène du service pour l'amélioration de la qualité de vie et pour freiner aussi ce phénomène de désertification.
Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la mobilité, Elisabeth, et là aussi il y a des choses qui sont en train de changer.
Oui, il y a des initiatives de covoiturage, parce qu'en zone rurale, 30% des habitants ont un problème de mobilité. Alors vous avez Atchoum, le covoiturage solidaire que vous connaissez, qui est mis en place notamment sur le territoire d'Ambert depuis début février. Il met en contact les conducteurs et les passagers pour les trajets du quotidien. Ce sont des trajets qui durent entre 5 et 30 km en moyenne. C'est pour aller chez le coiffeur, par exemple, ou pour faire des courses. Donc s'adapter au court trajet, c'est une espèce de blabla car des campagnes. Et donc, il met en contact conducteurs et passagers pour ces trajets du quotidien sans forcément passer par Internet.
Emmanuel Brochot, vous connaissez ?
Oui, Vincent Desmas, c'est un type formidable. Et effectivement, c'est pas facile, c'est le fondateur d'Atchoum. C'est pas facile, ce qu'il fait est pas facile. Mais le service est absolument unique. Alors en plus, un petit cocorico, là, il vient de développer ça à Ambert, c'est chez moi dans le Puy-de-Dôme. Donc forcément, je suis content.
Je vous avais dit qu'il allait y avoir de la lutte entre les différents départements. Bon, en tout cas, il y a des idées, il y a des projets, il y a une vitalité dans nos campagnes, dans les territoires ruraux, comme on les appelle, et vous en êtes la preuve. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler ruralité. Et je vous rappelle que ce soir, le 18-20 de Nathalie Lévy sera justement en Meurthe-et-Moselle pendant 2 heures pour parler ruralité avec les acteurs concernés.
Il est 13h46.
Merci.
On reste ensemble et nous partons, tiens, en Bourgogne, du côté de Mercuré. 5 générations se succèdent à la tête des domaines de Villars. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le moment de découvrir, Raphaël, l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, elle nous emmène en Bourgogne, du côté de Mercuré. Bonjour à Amaury de Villars.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avec votre sœur, la 5e génération de vignerons. Mais je crois qu'à y regarder de plus près, l'histoire de la vigne dans la famille remonte même bien avant.
12e siècle.
Grand-mère a fait des recherches. 12e siècle.
Exactement. Personne n'est parfait, Raphaël.
Et comment est-ce que vous êtes retombé sur le 12e siècle? Comment est-ce qu'elle a fait pour remonter comme ça l'histoire?
Vous savez que l'état civil auparavant était gardé par les églises et qu'en fait l'église de notre village a brûlé au 12e et on ne peut pas aller plus loin. Mais c'est déjà pas mal. Et en fait, nos racines sont profondes et on a fait pas mal de choses depuis. Et puis en 2005, ma sœur et moi, après avoir vécu à l'étranger, aux États-Unis et en Espagne, on a décidé de revenir et de reprendre la destinée de notre domaine avec notre père et puis une équipe. Parce que le sujet précédent, c'était la ruralité.
Oui.
Et nous, on a été très internationaux d'abord et puis on est revenu à nos racines avec une équipe, avec un côté humain. Et je dirais que maintenant, même si on a la chance de beaucoup voyager pour aller voir nos clients, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et le tourisme du vin a été quelque chose qui s'est beaucoup développé chez nous depuis une dizaine d'années.
Oui, parce que les domaines sont passés de génération en génération chez vous. Et alors, je crois qu'en 1932, vos arrière-grands-parents ont acheté pour vos grands-parents le fameux château Chémery, où vous êtes toujours,
exactement,
hein, d'ailleurs.
Exactement, où j'habite. Avec mon épouse et nos enfants.
Leur ont donné les clés lors d'un déjeuner dominical.
C'est tout à fait... D'ailleurs, un journaliste américain m'a dit il y a à peu près un an, c'est une très belle histoire. Je lui ai dit, ce n'est pas une storytelling, c'est notre histoire. Et donc, mes arrière-grands-parents ont souhaité à mes grands-parents joie et bonheur en leur souhaitant de faire les meilleurs vins possibles.
Et alors, vous êtes toujours dans ces bâtiments qui sont pétris d'histoire. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour traverser le temps avec un produit comme celui que vous faites aujourd'hui?
Alors d'abord, nos parents ont eu l'intelligence de nous donner le choix, ma sœur et moi, parce que je travaille avec ma sœur qui s'appelle Aurore, et en nous disant « faites ce que vous voulez, mais faites-le bien ». Et puis on a fait beaucoup de choses, professionnellement, en France, à l'étranger. Et puis... on a eu ma mère est décédée il y a une vingtaine d'années. On a fait le choix, ma sœur et moi, de revenir à nos racines et de reprendre la destinée de nos domaines en 2005 avec l'idée de faire bien et de faire des vins avec de l'émotion. De l'émotion, c'est quoi? C'est un vin qui, quand vous en dégustez une gorgée, vous donne la chair de poule, qui soit exactement l'empreinte même d'une parcelle de vigne déterminée.
Et vous dites, je vous coupe, mais vous dites vos domaines, parce qu'il y a cinq domaines, et vous dites c'est comme nos cinq enfants. C'est la même chose.
C'est la même éducation, mais par contre, c'est laisser libre l'expression.
C'est-à-dire chacun a sa particularité,
exactement,
son caractère.
Exactement. Et c'est vraiment comme ça qu'on... Je pense que c'est une organisation qui est unique en Bourgogne. Je ne connais pas d'autres familles qui s'organisent de la même façon, qui est à la fois... des domaines qui sont complètement séparés, puisqu'on peut retirer un domaine de notre organisation, ça ne déstabilise pas les autres. Les cinq domaines sont le château de Chamiret à Mercuré, le domaine des Perdrix en Côte de Nuit, le domaine de la Garenne que l'on a racheté avec mon épouse en 2008 et mes beaux-parents, le domaine de la Ferté à Givry, et le dernier né, on a décidé de traverser la Saône et de passer dans le Jura. Pourquoi ? Parce que le Jura est une région magnifique, c'est une région où il fait un petit peu plus frais.
Et là, on travaille les vins d'Arbois.
Exactement.
Alors, vous faites aussi, et c'est important de le signaler, votre propre compost depuis 15 ans maintenant.
Tout à fait.
Donc, il y a une dimension éco-responsable. Forcément, on est en proximité avec la terre.
Alors, il faut que je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, nous avons familialement deux passions, à la fois le vin et les chevaux. Mon père a très longtemps monté en championnat de France en complet et en concours hippique. Et donc, finalement, les raisins de tri, puisque vous avez toujours un tri au moment des vendanges, et donc des raisins que l'on jette, qui ne sont pas sains, on a décidé, il y a une quinzaine d'années, de les mélanger avec du crottin de cheval et les feuilles du parc du château de Chamiret, et de faire à peu près 50 tonnes de compost que l'on va réincorporer. Je dirais que c'est du bon sens. C'est pas forcément... bien sûr, c'est éco-responsable. Mais avant tout, et c'est ce que les anciens avaient à la campagne, c'était du bon sens, que l'on a peut-être perdu et auquel le monde actuel nous ramène, exactement.
Notre coach, Christophe Chaud.
J'ai plein de questions, mais il y en a une qui vient là, avec le thème précédent qui était la ruralité, oui, etc. Par rapport justement à toutes ces discussions qu'on a pu avoir sur des mouvements dans un sens ou dans l'autre, comment est-ce que vous, une entreprise centenaire, est là, comment est-ce que vous vous inscrivez dans ces mouvements-là? Comment est-ce que vous vous sentez y contribuer, y participer?
D'abord, c'est vrai que le fait de vivre à la campagne, c'est extrêmement important. Et puis surtout, ça a été un choix de ma sœur et moi de s'inscrire dans cette histoire et dans cette continuité. Nos parents, à aucun moment, nous ont mis une pression. Voilà. Moi, j'ai longtemps vécu à Paris, en Espagne, aux États-Unis. Je trouve que le vrai luxe, c'est le calme et l'espace, que l'on retrouve dans nos domaines avec une équipe dont je suis extrêmement, extrêmement...
Combien de personnes qui travaillent avec vous ?
Nous sommes 60 aujourd'hui, en tout, avec une équipe extrêmement qualifiée, performante, des gens qui ont envie. Et dans ce terme de envie, il y a aussi le côté humain. C'est-à-dire que tout est simple chez nous. tout est assez fluide. Et finalement, les choses avancent naturellement. Et voilà. Donc, l'éco-contribution, si vous voulez, pour nous, elle est assez naturelle, finalement, dans tout ça.
Ce sont les domaines de Villars. Merci à Amaury de Villars d'être venu nous parler de vignes et de vin aujourd'hui, de ruralité aussi. Merci à Christophe Chaud qui était notre coach. Elisabeth, merci. Céline, rendez-vous demain midi sur Europe 1.